se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de dorade royale filière Auchan Cultivons le Bon est à seulement 6,49€.
À ce prix-là, j'invite mes amis à dîner demain soir. Je vais leur faire ma recette de dorade au four.
J'en connais qui vont se régaler comme des rois.
Vous voulez venir ?
Ah bah oui ! Auchan, avec plaisir. 6,49€, le kilo de dorade royale filière Auchan Cultivons le Bon. Élevé en Grèce, pièce de 300 à 600 grammes. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Bon réveil à tous, bienvenue sur RMC. Il est 4h26 et évidemment, on est là, fidèle au poste, au rendez-vous en direct avec vous pour vous accompagner. On est avec vous au 32-16. Le standard est ouvert, je viens de croiser Quentin. Et surtout, Anaïs Castagna.
Bonjour Charles Magnin. Comment vas-tu, Charles, ce matin ?
Plutôt très bien, pourquoi ?
Bah non, c'est ça. On a le droit de se poser les questions.
Oui,
voilà.
Mais on s'était posé hors antenne, mais oui, ça va toujours aussi bien qu'au milieu de la nuit. Géraldine Domori, bonjour.
Salut tout le monde. Petit problème de casque, Charles.
Oui, j'ai pas de casque, mais c'est pas grave. On peut faire de la radio sans casque, c'est pas grave. Géraldine, agitée, tu m'as dit, perturbée.
Bah oui, là, ça y est, il y a une perturbation qui va arriver par le nord-ouest. Donc, on va la voir pendant quelques jours, avant le retour au calme à partir de jeudi.
On va surveiller les nuages, évidemment. Avec Géraldine, vous aurez toutes les infos en écoutant RMC. Tiens, je vous signale aussi qu'on va surveiller la finale de Caroline Garcia. Et oui, notre Française qui est en train de jouer une finale de Masters WTA en ce moment au Texas et elle a gagné le premier set. Donc voilà, la rédaction vivre. On va venir informer minute par minute.
3-1 pour elle dans le deuxième set.
Voilà, ça sent très beau pour
c'est
Caroline
Arthur
Garcia.
Qui est à fond.
Ouais, toute l'équipe. Arthur, là, en régie, est à fond aussi. Tout le monde surveille. Évidemment, on vous tient informé minute par minute sur RMC. Mais la question à la une ce matin avec vous au 32-16 sur RMC, elle va concerner l'inflation. La grande distribution doit-elle faire plus d'efforts pour limiter la hausse des prix?
Michel-Édouard Leclerc sera l'invité d'Apolline de Malherbe du face-à-face, donc à 8h30 ce matin sur RMC et BFM TV. Il accusait en juillet les industriels de gonfler artificiellement leurs prix. Mais le rapport commandé par Bruno Le Maire montre le contraire. Les industriels de l'agroalimentaire ont réduit leur marge de 16% et les distributeurs ont baissé les leurs de 1%. En clair, il n'y a pas de profiteurs de crise.
Oui, mais ce serait plutôt les industriels. Les grandes marques auraient fait des efforts. En revanche, du côté de la grande distribution, on a moins rogné sur les marges. Alors la grande distribution doit-elle faire encore des efforts, réduire ses marges pour sauver certaines petites entreprises de l'industrie agroalimentaire qui souffrent terriblement en ce moment? Vous travaillez en grande distribution ou vous travaillez dans l'agroalimentaire? N'hésitez pas, là, ce matin, vous composez le 32-16 et avec vos témoignages, on va connaître la réalité du terrain parce qu'il y a ces grands rapports, ces grandes enquêtes, ces chiffres nationaux, mais il y a aussi le détail, le quotidien avec vous au 32-16. Vos questions peut-être à Michel-Édouard Leclerc, n'hésitez pas, parce qu'en attendant, les prix payés par les consommateurs, par nous, dans les rayons, ne cessent d'augmenter, plus 12% sur les prix de l'alimentaire en octobre, sur un an. Alors justement, venez nous dire si le contenu de votre caddie a changé ces derniers mois. Est-ce que vous avez abandonné certaines marques? Est-ce que vous privilégiez la qualité ou la quantité? Avez-vous changé peut-être d'enseigne, d'hypermarché pour acheter moins cher? Peut-être que vous vous tournez vers le hard discount? Est-ce que vous guettez plus les promos qu'avant? N'hésitez pas à venir partager avec nous vos nouvelles habitudes de consommation. Vous composez le 32-16 ou bien vous nous envoyez un petit message sur Direct Studio. Je vois déjà les fidèles du matin. On salue Chris, Laurent, Jessie qui sont déjà levés et qui nous envoient des petits coucous sur l'appli RMC avec Direct Studio.
Et puis on n'oublie pas tous nos rendez-vous dans Mon Choix ce matin à 5h10. Je vais vous parler de code de la route. On verra que tous les usagers commettent des infractions, les automobilistes, les cyclistes, les piétons. Mais certains cumulent les fautes. C'est ce qui ressort d'un sondage qui vient de sortir. Sondage qui montre aussi que les Français sont nombreux à méconnaître les règles. Je vais tout vous dire. On va aussi sourire grâce au meilleur de Julien Cazard et d'Arnaud Demanche.
Mais oui, on va se marrer ce matin sur RMC. On va évidemment suivre Caroline Garcia en finale du tournoi WTA. On va aussi parler d'inflation, évidemment. Tiens, j'ai oublié de vous poser la question, Géraldine, Anaïs. L'inflation dans votre quotidien, ça a changé quelque chose dans quand vous faites les courses, vous faites plus attention?
Je fais plus attention.
Oui, bien sûr.
Mais alors, tiens, j'ai une vraie question. Est-ce que vous allez toujours dans les mêmes enseignes qu'il y a 6 mois ou un an?
Oui, moi, j'ai pas changé d'enseigne, mais j'ai limité les quantités.
Ah, ça, c'est très intéressant, parce que les études nous disent que certains arbitrent entre qualité, quantité. Est-ce que, je sais pas, par exemple, sur la viande, hein, c'est un des produits qui a pris le plus, hein, presque.
Bah, moi, je mange beaucoup moins de viande, ouais. Ah, ouais.
Pareil.
Pour des questions de prix, mais aussi d'écologie.
Ah oui, en plus, voilà, c'est bon pour la planète et pour le portefeuille. Tiens, est-ce que vous consommez moins de viande? Est-ce que vous avez vu les prix exploser? Peut-être que vous avez changé de viande aussi. Il y a des viandes qui ont plus ou moins pris avec l'inflation. N'hésitez pas, la qualité, la quantité, ces arbitrages dans les rayons, c'est vous qui témoignez ce matin au 32-16.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
4h42 sur RMC. Alors, la grande distribution doit-elle faire plus d'efforts pour limiter la hausse des prix?
C'est la question du jour sur RMC.
Et notez bien que Michel-Édouard Leclerc sera ce matin sur RMC, invité du face-à-face à 8h30 face à Apolline de Malherbe sur RMC et BFM TV. Or, au mois de juillet dernier, Michel-Édouard Leclerc avait lancé des accusations. Il dénonçait, je cite, « des hausses suspectes et non transparentes des prix de certains produits alimentaires ». En fait, il accusait les industriels de l'agroalimentaire d'être des profiteurs de crise, de surfer sur l'inflation pour gonfler leurs marges.
Face à ces accusations, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avait commandé un rapport à l'Inspection Générale des Finances pour démêler le vrai du faux, s'assurer que les industriels et la grande distribution jouaient le jeu face à l'inflation. Et hier matin, sur RMC, Bruno Le Maire a détaillé les conclusions de ce rapport.
Les marges de la grande distribution ont légèrement diminué. Les marges de l'industrie agroalimentaire se sont effondrées. C'est-à-dire que les bénéfices de l'industrie agroalimentaire, aujourd'hui, sont beaucoup plus faibles qu'ils ne l'étaient en 2019. Les seuls qui sont protégés, même si je le dis avec prudence, parce qu'il y en a qui souffrent beaucoup aujourd'hui, c'est les agriculteurs, grâce à la loi Egalim qu'a voulu mettre en place le président de la République. Quelle est la conclusion que je tire de tout ça? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de profiteurs sur les prix de l'alimentation.
Pas de profiteurs de crise, dit le ministre Bruno Le Maire. Et dans le détail de ce rapport qu'RMC a pu consulter, eh bien Anaïs, on constate que ce sont en fait les industriels qui ont fait le plus d'efforts.
La rentabilité de l'industrie agroalimentaire a baissé de 16% entre 2019 et le premier semestre 2022, alors que celle de la grande distribution a baissé de seulement 1%. Par ailleurs, celle des agriculteurs a augmenté 12%, notamment grâce aux effets de la loi Egalim 2.
Voilà, donc des agriculteurs à peu près protégés, une grande distribution qui a fait un petit effort de 1% sur sa rentabilité. Et au milieu, entre les producteurs, les agriculteurs et la grande distribution, bah, il y a les industriels qui, eux, ont vu leurs marges s'effondrer, Victor Joinin.
Ce sont les petites et moyennes entreprises de l'alimentaire qui sont les plus fragilisées. Et plusieurs marques bien connues des rayons de supermarché, comme les desserts Marie Morin ou les confitures Lucien Georgelin, souffrent. Selon la fédération de ces entreprises, 20% ont déjà dû licencier du personnel et 40% envisagent de réduire leur production. Voilà pourquoi le président de cette fédération, Léonard Prunier, appelle la grande distribution à accepter d'acheter plus cher leurs produits.
Notre métier, c'est de fabriquer des produits au meilleur coût. Et après, aux distributeurs, on leur demande d'accepter plus rapidement nos hausses, les coûts augmentent au moins toutes les semaines. Il y a beaucoup de variations sur nos achats, donc c'est pour ça qu'on a besoin que ce système soit plus rapide et plus réactif et qu'il y ait une confiance dans nos relations entre industrie et commerce.
Et preuve que sur le terrain, ça bloque encore. Les négociations débutées en mars dernier entre les industriels et les enseignes n'ont toujours pas abouti dans un tiers des cas.
Alors, la grande distribution doit-elle faire des efforts, réduire ses marges, bah, pour notamment sauver ces PME de l'agroalimentaire? Vous travaillez en grande distribution ou dans l'agroalimentaire, n'hésitez pas à composer ce matin le 32-16 si vous avez peut-être des questions concrètes pour Michel-Édouard Leclerc. Parce qu'en attendant, dans les rayons, les prix payés par les consommateurs ne cessent d'augmenter, Anaïs.
Oui, l'inflation a été de 6,2% en octobre, 12% sur les produits alimentaires. En tête des produits dont le prix a le plus augmenté, les viandes surgelées avec un record d'inflation de plus de 30%, les mouchoirs en papier, plus 28%, et les pâtes, plus 24%. Résultat, les consommateurs ont changé leurs habitudes. Ils se tournent davantage vers des enseignes de hard discount comme Lidl ou Aldi. Et ils délaissent de plus en plus les marques au profit des premiers prix qui coûtent 35% moins cher aujourd'hui. Un écart qui a considérablement augmenté l'an dernier.
Alors venez témoigner ce matin en tant que consommateur. Peut-être que vous travaillez dans la grande distribution aussi. Je vois justement Nathan qui nous appelle au 32-16 depuis Dax dans les Landes. C'est ça? Bonjour Nathan.
Bonjour.
Salut Nathan. Levé tôt pour le boulot?
Ouais, c'est ça. Ben moi, je me lève. En fait, je travaille à Cabreton et j'habite à Dax, donc j'ai une quarantaine de minutes de voiture tous les matins.
Avec RMC, évidemment.
Voilà, c'est ça.
Parfait.
Mais RMC toute la journée, que ce soit les grandes gueules, Moscato.
Parfait, Nathan.
Dès que je suis dans la voiture, c'est RMC de toute façon.
Bravo, Nathan. Et alors, votre boulot là, si vous êtes levé tôt, ça se passe en grande distribution, justement, c'est ça?
C'est ça. Alors moi, je suis ce qu'on appelle un manager de rayon, donc je m'occupe de la mise en place des rayons, du choix des produits, des commandes, d'avoir les négociateurs qui viennent, les fournisseurs qui passent.
Nathan, ça veut dire que vous voyez en direct les prix bouger, presque, j'ai envie de dire, au jour le jour.
C'est ça. Bah, pour donner un exemple, je vous prends un exemple en tant que... moi, je m'occupe de tout ce qui est café, confiserie.
Oui.
Les capsules Laure Expresso. Je vous prends les prix de la plus classique d'entre elles il y a 2 mois. Aujourd'hui, vous rajoutez quasiment 25 centimes.
Ouais, et ça, c'est le... Comment dire, Nathan? Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est l'industriel qui vous dit, voilà, mon nouveau prix a augmenté de 25 centimes? Ou est-ce qu'au passage, la grande distribution fait aussi quelques marges supplémentaires.
Alors, en fait, le problème, c'est que des deux côtés, alors, de la grande distribution, certes, les marges augmentent, mais en fait, elles jouent un jeu de « je te prends, je te prends pas, du coup, je vais prendre un concurrent, et du coup, c'est soit tu me baisses tes prix, soit je t'enlève. »
D'accord.
En fait, du coup, les fournisseurs, eux, ils augmentent forcément leur prix parce que du coup, ils essayent d'être rentables. Mmh. Sauf que du côté de la grande distribution, eux ne veulent pas payer plus cher. Mmh. Et du coup, on se retrouve avec des rayons, avec des ruptures partout parce que justement, ça bloque au niveau des négociations. Mais du coup, comme ça bloque, d'autres fournisseurs qui, eux, ont réussi à négocier des accords qui sont en rayon se disent bah, « c'est bien, le concurrent, il est encore en négociation, moi je suis déjà implanté.
Oui.
Donc je vais pouvoir augmenter mes marges, mon accord il est signé. »
Mais ça c'est intéressant.
Et du coup, t'as certains produits qui montent.
Ça c'est intéressant Nathan, parce qu'on l'a tous constaté, en tout cas il y a des produits qui disparaissent temporairement pendant quelques semaines
c'est
dans
ça,
certains rayons. Là, on voit de plus en plus.
En pleine négociation.
Ok, on est en pleine négociation, il y a des moments de bras de fer, de chantage où les produits disparaissent.
C'est ça, et ça peut durer des semaines.
Temporairement. Mais ce qu'on a compris avec ce rapport là dont Bruno Le Maire nous a parlé hier matin sur RMC, c'est que le plus gros de l'effort a été fait justement par les industriels de l'agroalimentaire,
voilà,
qui ont baissé leurs marges de 16%, là où la grande distribution elle a réussi à maintenir ses marges. Il n'y a pas eu de vrai effort sur les bénéfices. De Leclerc,
oui,
de Carrefour,
là,
au Lidl.
Je suis bien d'accord. Moi qui travaille en grande distribution, je le vois, et même en tant que consommateur, je vous donnerai mon point de vue consommateur juste après, mais c'est vrai qu'on le voit au niveau de la grande distribution. Pourtant, moi, je ne suis pas dans un très grand magasin, c'est un hypermarché Leclerc. Je le vois que les prix augmentent sans cesse. Mmh. Et sur des choses où même parfois, même les marques discount, Eco Plus, Marc Repère, même elle, des fois, d'aller prendre de la marque d'industriel devient presque plus intéressant que les marques discount. Mmh. Parce que la grande distribution, du coup, va rattraper leur marge sur ces marques-là. Et comme tout augmente, forcément, on se retrouve des fois à prendre des produits de marque en se disant « Ah, tiens, ça va être plus cher que la marque Repère. » Et quand tu regardes la marque Repère, eh ben en fait, t'es perdant sur la marque Repère.
Il n'y a plus tant d'écart que ça, voire même ça se vaut. Et Nathan, est-ce que le comportement, vous avez vu le changement du comportement des clients, non, j'imagine, dans vos rayons là?
Ah oui, clairement. Mais même moi, en tant que consommateur, parce que je suis papa depuis 2 mois,
félicitations.
Donc forcément, j'ai mes habitudes qui ont changé. Et je vous cache pas que c'est, je dirais pas au centime près, mais on va dire que. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien, par exemple, j'aime bien de temps en temps me prendre un t-shirt par-ci ou quelque chose comme ça.
Oui.
Je fais pas de gros achats, mais on va dire que de temps en temps, un petit t-shirt, un jean, quelque chose du genre.
Oui.
Mais je me retrouve, si j'ai besoin de vêtements ou ne serait-ce que de choses pour ma fille, je suis tellement à vérifier mes courses que je me retrouve surtout à acheter d'occasion sur Vinted, ou alors je vais attendre des mois que ce soit les soldes, moins 70%, j'y vais vraiment le dernier jour, et je ramasse un peu ce qui reste. Et au niveau de la nourriture, c'est pareil. Hein. Moi, depuis que l'inflation a commencé avec ma femme, on allait 2 fois au cinéma par mois, on n'est pas sorti au cinéma depuis quasiment 6 mois. Cet été, on est resté dans l'appartement tout l'été, pas de sortie. Pas de resto.
Oui, donc c'est l'arbitrage permanent et on rogne un peu sur tout, que ce soit les loisirs, l'habillement, etc. Oui, Nathan, mais c'est très concret, hein, votre point de vue à la fois de consommateur et d'employé de la grande distribution. Merci beaucoup d'être venu témoigner ce matin sur RMC. On va voir si tout le monde partage ce témoignage. Si vous aussi, vous arbitrez comme Nathan au quotidien, sur les loisirs, les vêtements, mais aussi dans votre caddie, on traque les promos, comme nous le disait Nathan. Et est-ce que vous avez l'impression, si vous travaillez en grande distribution comme Nathan ou en tant que consommateur, que c'est du côté de la grande distribution qu'il y a encore peut-être des efforts à faire sur les marges? Vous n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert. On va continuer à suivre de très près cette inflation. Dans un instant, on va se retrouver avec, des nouvelles du Texas, où Caroline Garcia est en train de jouer sa finale du tournoi WTA Masters. C'est tout de suite sur RMC. 4h52 sur RMC et nous sommes en direct à l'instant. Cocorico, Caroline Garcia a gagné.
Ben oui, c'est l'événement de la nuit. Caroline Garcia qui a remporté le Masters WTA Fort Worth au Texas. Elle affrontait Arina Sabalenka, 7e joueuse mondiale. On sera avec Eric Salio dès le début du journal de 5h. À retenir également dans l'actualité ce matin, une enquête a été ouverte après le décès d'une patiente de 77 ans à l'hôpital de Dijon. Sa famille accuse le CHU de ne pas l'avoir nourrie alors que son opération a été repoussée à plusieurs reprises. Et puis Emmanuel Macron a plaidé hier à la COP27 pour une interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales, a dit le président à la tribune.
4h53 sur RMC. Allez, c'est l'heure aussi de sourire, de se détendre dans toute cette actualité grâce à l'ami Julien Cazard qui, tous les soirs, dans Rotten sans flamme, revisite l'actu foot à sa façon. Le meilleur du Cazard enchaîné, tout de suite sur RMC.
RMC, le Cazard enchaîné.
On a vécu un grand match hier quand même. C'était quand même, bon, c'est quand même deux écuries de Ligue 1. De monstres championnat, ça sentait la poudre. On n'a pas été déçus, ça s'est joué à un but, mais c'était âpre à l'issue, notamment de. Bah, c'est l'équipe qui a joué en Ligue des Champions, alors qu'elle a été un peu fatiguée, qui a gagné au final. C'était beau, c'était un beau duel. Merci aux deux équipes, merci à Lorient, merci au PSG pour avoir élevé notre championnat. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Louis? Pourquoi tu rigoles?
Ah, c'est pas ça dont on parlait, c'est le match de 21h. Ah, ok, d'accord, ils sont 6e et ils sont 8e, mais c'était quand même le duel des grosses équipes, gna gna gna. J'ai pas le temps de regarder tous les matchs, moi. Oui, d'accord.
Je parle pas comme ça.
Ah bon? Oui, tu parlais de Interjuve.
Oui,
c'est
voilà.
Ça, voilà, merci. Alors, non, je sais, vous êtes nombreux à trouver qu'on s'enflamme un peu trop sur Lorient. Je sais, j'ai un peu abusé. Lorient, on s'enflamme. L'effet Lebris est peut-être en train de s'estomper. Ouais. Le Guardiola du Finistère, le Jürgen Klopp armoricain, le Mourinho de la galette saucisse. On a un petit peu lâché la bride à un moment. C'est vrai qu'on s'est laissé aller. Ouais. Mais c'est pas notre faute. C'est à cause de l'after, à cause du philosophe, là, Thibault Leplat, quand vous avez une éloge un peu modérée, souvenez-vous.
Et puis, à 23h, comme promis, tout sur Régis Lebris.
Ouh, et là, en fait, c'est une sorte de mélange entre Gourcuff et Klopp, quoi. C'est un peu comme Mourinho, mais en termes de qualité intrinsèque, on a un type qui est pour moi du niveau de Pep Guardiola. Quoi.
Oui, avec le recul. Non, mais c'est le problème des RMC. C'est notre côté. On s'enflamme. C'est pour ça qu'on est populaire à Marseille. On s'enflamme. Nous, les premiers, regarde, c'est l'ADN des RMC.
C'est une lumière absolue dans la nuit.
Voilà, par exemple. Nous reviendrons cette édition sur le vrai événement de la journée, le tirage au sort de 8e de Ligue des Champions.
Et les derniers tirages.
Manchester City FC.
Manchester City.
The finalist of the 2021
rencontrera l'Olympique de Marseille.
Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible, ils sont pas qualifiés, ils sont pas d'Europa League.
Et il s'est fermé là, mais c'est pour leur donner un peu de rêve, pour qu'ils méritent tellement mieux. Les pauvres, ils ont regardé tout le monde dans les yeux.
Mais ils sont pas débiles, ils vont jamais croire un truc pareil. C'est pas des ouf. Ils ont cru à Kentoshi, à Gigo. Ils peuvent croire à tous, ces gens. Il faut leur donner du rêve. Chez les Rengos, demande à Jean-Louis Tour, il te le dira. Chez les Rengos.
Non, mais on est d'accord qu'on suivra évidemment le parcours de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Il faut y croire, mais vous comprenez, vous êtes trop cartésien, vous êtes trop parisien.
RMC, le Cazard enchaîné.
Julien, encore très, très taquin hier soir, on va le dire comme ça, dans Rotten sans flamme avec son Cazard enchaîné. Tiens, si vous souhaitez réécouter Julien et l'intégralité du Cazard enchaîné, c'est en podcast à tout moment de la journée sur l'appli RMC, puis à retrouver ce soir entre 18h et 20h, votre rendez-vous foot sur RMC, Rotten sans flamme avec donc Julien Cazard, mais aussi Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten et toute la Dream Team RMC. Il est 4h57, le journal de 5h approche. Évidemment, mais comme tous les matins, c'est l'heure de notre réveil en musique.
RMC, la playlist de Charles Matin.
La playlist tous les matins, c'est toute l'équipe autour de la table qui partage son humeur musicale. Allez, ce matin, tiens, on va donner la parole en premier à. Je vois que tout le monde tremble un peu autour. Ah bah voilà, c'est Arthur. T'as parlé. C'est à toi de commencer. Arthur Asquin, notre producteur qui nous rejoint en studio.
Salut Charles.
Salut Arthur. Qu'as-tu envie d'écouter ce matin?
Alors moi, en ce moment, je joue beaucoup à FIFA 23. Voilà, je passe une grande partie de mes après-midi à ça.
Il y a
une excellente bande son cette année et j'ai découvert cette chanson Must Be Love de Tseba.
Voilà, je sais pas si.
sais pas ce que c'est exactement, de l'électro, pop.
Mais je sens bien que ça rythme tes après-midi.
Je prends des tôles en ligne là-dessus, c'est formidable.
Voilà. Ah bah.
Un jour, on vous donnera le pseudo en ligne d'Arthur pour que vous puissiez aller le battre en ligne tous les après-midi. Vous faire un petit plaisir, avec battre plaisir. Arthur Askin sur FIFA. C'est facile. Bon.
Moi, je ne joue pas à FIFA 23, mais moi, j'ai écouté ce week-end le nouvel album de Drake qui vient de sortir. Avec, et bah justement, il y a une des chansons où tiens, j'ai reconnu, je me suis dit, tiens, il est audacieux, il s'attaque à un monument de la musique française.
Je vois qu'Anaïs a reconnu tout de suite, mais oui, Drake rappe sur un sample de Daft Punk. C'est assez rare que les Daft Punk autorisent des gens à reprendre leur tube, mais ils ont donc autorisé Drake et son compère 21 Savage à reprendre leur tube One More Time sur leur titre qui s'appelle Circo Loco. Et oui, en effet, quand on arrive au refrain, il y a peu de doute sur l'origine du sample. One more time, hit my line, you know the hair was gray. Oh yeah, alright, don't do romancing. One more time, you gotta run the face. Oh yeah, alright, one more time. Alors, est-ce qu'on a le droit de toucher à Daft Punk ou pas ? Vaste débat. En tout cas, le duo français a donné son accord, visiblement.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
5h10 sur RMC. Et attention, attention, tout de suite, Anaïs va vous faire tomber quelques points sur votre permis.
RMC, Charles Matin.
Le choix d'Anaïs.
Oui, Anaïs, ce matin, tu as choisi de jouer aux gendarmes.
J'en ai toujours rêvé.
Sur la route, c'est le constat, tout le monde est coupable.
Oui, parce que tu sais comment ça se passe. Sur la route, c'est toujours la faute des autres. Le motard qui double, la voiture qui roule trop vite, le vélo qui oublie le feu rouge et le piéton qui traverse le nez dans son portable. Mais c'est jamais toi. Et tu t'en prends souvent au même. Moi, par exemple, qui suis piétonne.
L'enfer, c'est les autres.
Ben voilà, moi qui suis piétonne, je supporte plus les cyclistes qui roulent sur les trottoirs. Mais la réalité, Charles, c'est que les piétons, eux non plus, ne sont pas irréprochables. Sondage Opinionway pour 20 minutes. 79% d'entre eux traversent en dehors des passages cloutés. 35% ne lèvent pas le nez en s'engageant sur la chaussée.
Ouais, boue les piétons, irresponsables.
Alors attention, c'est pas bien beau non plus chez les autres usagers, notamment chez les cyclistes. Près d'un sur deux change de fil sans prévenir ou grille les feux.
Monsieur, monsieur, attention! Qu'est-ce qu'il fout dans la troisième file?
6 automobilistes sur 10 ne respectent pas les limitations de vitesse et 7 sur 10 pour les motards.
C'est limité à 50 partout là. Dans les dépanneaux là où il y a marqué 50?
Ouais.
Moi, je croyais que c'était pour les skateboards.
Sans oublier les usagers des trottinettes qui cumulent, eux, bah, toutes les fautes. Hein. Festival, la moitié va trop vite, slalom, ignore les feux ou conduit avec le téléphone portable.
Zéro.
Ouais, très mauvaise note pour l'usager de trottinette. Ouais. Bon, la difficulté, c'est que cette trottinette électrique et le vélo aussi se sont considérablement démocratisés. On en voit de plus en plus en ville et c'est pas facile de faire cohabiter tout le monde sur la route.
Ah oui, c'est une chose de faire de la trottinette dans son jardin, c'en est une autre de s'en servir pour rouler en ville. Il y a des règles à respecter. La vitesse maximale est, Charles, de
25.
30. Bien, 25. Ah. Et,
elles sont bridées, celles qui sont en libre service.
Ouais, ah ouais, ah bon, bien informé, Charles.
Ah bah, je pratique assez régulièrement la trottinette.
Et alors, en zone piétonne?
Ah ça, j'en ai aucune idée.
6.
Ah bah, c'est impossible de rouler à 6.
Ouais, bah, écoute, en tout cas, c'est la règle et certains usagers l'ignorent encore.
Vous savez à combien il faut rouler ici?
20, 10, 15.
On est sur une zone piétonne, c'est 6 km/h.
Ah d'accord.
Oui, bah, je suis comme la dame, moi. Ouais. Ah, d'accord.
Voilà. Là, par exemple, donc, c'est à Mulhouse où la mairie a mis en place des panneaux pour sensibiliser les usagers de trottinettes. Mais les automobilistes aussi devraient réviser certaines règles du code de la route. Ça leur éviterait quelques surprises avec les cyclistes. Notamment, j'ai découvert hier, tiens, que les vélos avaient le droit de rouler dans les deux sens de circulation dans certaines zones. Tu le savais, toi?
Ah non.
Ouais, mais dans les zones 30.
Ah mais si, bien sûr. Ah si, ça je le sais. Bah d'ailleurs, il y a des marquages au sol souvent. Bah il y a un sens interdit pour les voitures, mais au sol le vélo peut circuler.
Et j'étais capable de râler sur justement un cycliste en le voyant faire ça.
Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que là on se définit. Enfin, comment dire ? Moi, ça m'arrive d'être à trottinette, ça m'arrive aussi le week-end quand je suis avec les enfants à Nice de conduire une voiture. Donc voilà, on n'est pas forcément que l'un ou que l'autre.
Ah, bien sûr.
On
alterne. Ouais. Bah, toi, par exemple, donc tu viens en voiture au boulot, tu vas aller chercher ta baguette de pain à pied. Exactement. C'est pas cloisonné. On varie, comme de nombreux Français. On a en moyenne 2,2 modes de transport pour nos déplacements réguliers. Et ça, t'as raison. Quand on est sur la route, faut pas l'oublier avant de se mettre à hurler sur les autres.
Bah oui, mais moi, je change de. Comment dire, mon cerveau change de mode. Une fois que je monte dans la voiture, bah, je deviens un méchant.
suis automobiliste, et une fois que je suis sur la trottinette, je deviens un irresponsable à trottinette. Voilà, on s'adapte toujours, et puis quand je suis piéton, évidemment, je traverse avec le nez collé à mon smartphone.
Je fais tout mal.
Très mauvais élève. Bah tiens, puisqu'on parle de route, je vois que Cyril nous a appelé au 32-16 depuis les Yvelines. Bonjour Cyril.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors j'imagine que vous avez travaillé toute la nuit si vous nous dites bonsoir, Cyril.
Je voulais rebondir vite fait sur ce que vient de dire Agnès Castagna. Ouais, moi, je suis tout le temps sur la route.
Ouais, Cyril, je vous coupe. Je vais préciser, vous êtes chauffeur VTC.
C'est ça,
donc professionnel de la route. Racontez-nous.
Je suis professionnel de la route, mais ça ne veut pas dire que je suis non plus toujours irréprochable. Là, je viens de perdre 3 points en un mois pour des excès de vitesse de 1 km/h. Je crois que la loi devait changer, finalement, il n'y a toujours rien. Et c'est vrai qu'on voit facilement les erreurs de tout le monde, et on voit aussi les siennes, hein, parce que moi, des fois, j'en fais, je me dis peut-être que là, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et c'est vrai que les trottinettes, en général, c'est quand même un fléau à Paris, c'est n'importe quoi. On a toujours les piétons qui sont sur les téléphones avec les écouteurs, on leur dit à un moment donné, enlevez-les. Et rester sous le trottoir ou je sais pas, faites attention. Et même nous, les voitures, après, ça double n'importe quoi. Mais je crois que c'est la ville de Paris qui pousse à vivre toujours dans l'illégalité.
C'est la cohabitation aussi. Il y a 10-15 ans, Cyril, il y avait que voitures ou piétons, en gros. Et quelques scooters.
Ça dépend.
Les vélos,
c'est plus en Strasbourg, donc. Je viens de Strasbourg, donc les vélos, ça a toujours été. C'est vrai qu'à Paris, ça met beaucoup de temps à arriver. Les pistes cyclables, quand elles sont bonnes, il n'y a personne dessus. Quand elles sont mauvaises, les gens, ils roulent sur la route. Moi, je vois encore des routes où il y a des pistes cyclables qui sont magnifiques, il n'y a pas un vélo dessus. Donc, ils sont encore sur la route. Je viens de dire, mais vous avez une piste cyclable qui est sécurisée, elle est dessus. Moi, j'ai passé mon permis à Strasbourg et. Enfin, dans les Vosges plutôt, et effectivement, le code de la route entre Paris et les Vosges, c'est pas du tout le même.
Ça, on est d'accord. Il y a une espèce de code de la route parisien, ou en tout cas dans les grandes villes.
Même que quand je rentre chez mes parents, je me dis merde, j'ai fait un truc. Je conduis comme un Parisien, comme un con.
c'est très honnête, Cyril. Mais alors bon, voilà pour le point route avec vous. Mais ce qui vous a fait appeler ce matin, c'est l'inflation, c'est la hausse des prix,
c'est la
consommation. Parce que je vais rappeler que Michel-Édouard Leclerc sera l'invité tout à l'heure d'Apolline de Malherbe dans le face à face. Hier, c'était Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui est venu nous dire qu'il a commandé un rapport qui montre qu'il n'y a pas eu de profiteurs de crise, que les industriels ont plutôt rogné sur leurs marges, hein, 16% de rentabilité en moins pour les grands industriels de l'agroalimentaire, que la grande distribution a aussi baissé un tout petit peu ses marges, sa rentabilité de 1%. Et on se demande ce matin, c'est pas de ce côté-là, est-ce que c'est pas à la grande distribution de faire encore des efforts pour limiter la hausse des prix? En attendant, c'est le consommateur comme vous, Cyril, qui est en première ligne. Est-ce que vous avez changé vos modes de consommation, là, ces derniers mois?
Avant de monter sur Paris, j'étais vraiment précaire, je gagnais 1100 euros par mois, donc j'ai toujours vu les prix augmenter et tout ça, avoir eu du mal à faire les courses, au point où je faisais toujours un repas par jour, j'ai toujours vécu en me débrouillant. Depuis que je suis monté sur Paris, les prix, quand on passe d'Alsace et des Vosges à Paris, on se rend compte qu'il y a quand même une égalité au niveau des territoires où les prix sont toujours plus élevés à Paris. Moi, j'essaie toujours de faire attention. Moi, après, j'ai de la chance. Je suis célibataire et sans enfant. Donc, l'inflation, je la vois. Ça fait des années que je la vois même monter. C'était même bien avant le Covid où les prix augmentent constamment. Et je sais pas comment Bruno Le Maire peut dire il n'y a pas de profiteurs de crise, parce que dans une crise, il y aura toujours des profiteurs. C'est comme ça. Mais après, quand on me dit les industriels, ils ont baissé leur marge et tout, mais les prix, ils augmentent toujours, en fait, quoi. Donc,
parce que les matières premières augmentent. Mais je veux dire, ils se font pas des bénéfices supplémentaires. Est-ce que je veux dire, ils ont
Des bénéfices. Mais c'est que, au final, c'est comme nous qui trinquons. Après, quand on fait des chèques de 100 euros pour ci, pour ça, ça sert à rien. Moi, j'ai revu tout mon mode de. Comme tout le monde, j'ai galéré pendant quelques temps. On essaye des trucs pour essayer de s'en sortir. Et finalement, après, on trouve la solution de faire différemment. Et
alors, justement, soyons concrets.
Mon mode de vie a totalement changé.
C'est quoi? C'est moins de viande? Je sais pas. Soyons dans votre caddie, là, Cyril, quand vous faites les courses.
Je suis autant. Sauf que maintenant, moi, j'ai la chance de pouvoir connaître des personnes dans plein de domaines. Donc, je passe directement par des intermédiaires et je saute directement les industriels et tout. Et quand on passe par les intermédiaires, on paye deux fois moins cher. Et j'ai la chance d'avoir un congélateur qui est assez grand. Je congèle tout. J'ai plus rien dans mon frigo.
Il y a la ligne qui se dégrade, Cyril, mais c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Voilà, c'est un peu le système D, la débrouille. Vous passez peut-être par des copains, par d'autres circuits pour
directement voir des fermiers pour payer la viande moins chère, les tomates et les pommes de terre moins chères. Mais il y a des trucs après qu'on. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir d'autres familles dans les Vosges. Ils ont un jardin.
Cyril, mais c'est très intéressant. Donc on évite le. On contourne, d'une certaine manière l'inflation, bah en passant bah par peut-être oui, par peut-être le potager quand on fait, quand on a la chance de pouvoir faire pousser un peu dans les Vosges comme votre famille, par des copains qui ont des bons plans, c'est ce que je comprends Cyril, et puis vous congeler aussi, c'est aussi une manière voilà de stocker un peu, parfois d'acheter peut-être des plus grandes quantités pour payer moins cher, c'est aussi ça la débrouille du quotidien face à l'inflation. Merci Cyril d'être passé ce matin par le 32-16. On va continuer à en débattre de ces questions d'inflation, de hausse des prix, où est-ce qu'il y a encore des efforts à faire, est-ce que c'est la grande distribution qui devrait rogner un peu sur ses marges, c'est vous qui allez nous le dire ce matin au 32-16. Je vous signale aussi plusieurs rendez-vous, Michel-Édouard Leclerc donc à 8h30, invité du face-à-face avec Apolline de Malherbe sur RMC et BFM TV, Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution, sera lui en direct avec nous dès 6h10 pour nous dire comment les consommateurs s'adaptent face à l'inflation, quels sont les prix qui ont le plus augmenté, est-ce qu'il y a des enseignes aussi qui s'en sortent mieux dans cette crise et face à l'inflation. Tout ça vous le saurez ce matin en écoutant RMC, et puis on vous attend au 32-16, et puis comme promis on va aussi se marrer tout de suite, c'est l'heure de retrouver le meilleur d'Arnaud Demange sur RMC. 5h20, si vous venez de vous réveiller, vous êtes bien sur RMC. Voici les trois infos à retenir ce matin avec Anaïs.
Caroline Garcia a remporté la finale du Masters WTA à Fort Worth au Texas cette nuit. Victoire en 2-7 contre Arina Sabalenka. Deuxième française de l'histoire à remporter un Masters. La dernière, c'était Amélie Mauresmo en 2005. À retenir également ce matin, CHU de Dijon visé par une enquête après le décès d'une patiente qui aurait été laissée à jeun avant une opération qui a été repoussée pendant plusieurs jours. Écoutez le témoignage de Muriel, la fille de la victime.
Ils étaient en manque de personnel. Ils ont quand même donné un bouillon de légumes le 24 au soir. Et c'est la seule nourriture et hydratation qu'elle aura eue jusqu'à sa mort au 31.
À suivre dès le début du journal de Quentin Vinet. Et puis les 50 entreprises les plus polluantes de France convoquées à l'Élysée. Aujourd'hui, Emmanuel Macron va leur demander de faire un effort en pleine COP27.
Géraldine Demory, là, on parlait climat, mais parlons météo, ce n'est pas la même chose. La météo du jour, elle est plutôt agitée.
C'est ça, avec une perturbation qui va arriver par le nord-ouest, avec de la pluie, avec du vent. On va avoir aussi un temps gris avec des pluies faibles vers la Méditerranée. Soleil voilé du sud-ouest au nord-est. Et les températures stables, toujours un peu au-dessus des normales de saison. Il fera 4 à 18 degrés sur la moitié nord cet après-midi. 19 à 23 degrés au sud.
Et à 5h22, bon réveil sur RMC. C'est l'heure de retrouver Arnaud Demange qui nous fait rire tous les matins avec Apolline. Vous connaissez ses rendez-vous à 7h20 et 8h20. Et pour vous, les lève-tôt, eh bien vous avez de la chance. C'est l'heure de la séance de rattrapage, le meilleur d'Arnaud Demange.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
Arnaud, Jordan Bardella a été élu samedi président du Rassemblement National à seulement 27 ans.
Eh oui, 27 ans, quel parcours! Il a fait 84%. Et franchement, ouais, si c'est pour faire des scores de dictateur africain, mais qui retourne en Afrique, Jordan Bardella. Alors, le parti traverse une mauvaise passe suite à la polémique Grégoire de Fournas, qui a donc crié qu'il retourne en Afrique pendant le discours du député Carlos Martins Bilongo. On ne sait toujours pas ce qu'il a voulu dire avec cette phrase. C'est une énigme, c'est comme à Fort Boyard. C'est les énigmes du père Fournas.
Bonjour, jeune aventurier. Si je te dis qu'il retourne en Afrique, de quoi parle-je? D'un bateau plein de Maliens qui profitent de nos prestations sociales? Ou bien de mon collègue, là, l'autre noir, là, Manu Dibango?
Oui, merci, père Fournas. Alors, Grégoire de Fournas se défend. Il n'a pas dit qu'il voulait qu'un député noir retourne en Afrique. Non, non, comment vous pouvez penser des choses pareilles? Il a dit qu'il voulait que tous les noirs retournent en Afrique. C'est quand même pas pareil.
Et puis Marina Foy qui va interpréter...
Foyce.
Ouais, j'aurais tenté un Foyce. Marina. C'est audacieux.
Donc, Marina Foyce qui va interpréter Sandrine Rousseau, j'ai hâte, dans la nouvelle série de Jean-Pascal Zadi sur Netflix.
Et oui, c'est une vraie info, elle va interpréter un personnage du nom de Corinne Douanier. Là, évidemment.
Ah oui.
Là, et c'est encore un petit parfum de vacances, cette musique, c'est bien, ça fait du bien. Et c'est vrai que Sandrine Rousseau est un vrai personnage de film, elle devrait d'ailleurs prochainement avoir droit à son propre biopic, si j'en crois les confidences de notre ami Dominique Besnay. Effectivement, on est dessus. Ça va être le film de l'année. Je vous le pitch. C'est Sandrine Rousseau, Marina Foïs, donc, qui s'engage aux côtés de Julien Bayou. C'est Vincent Lacoste, qu'on a fait un peu grossir, pour qu'il ait cette dégaine, vous savez, typique des blancs en léger surpoids, sandales chaussettes qui font des barbecues et qui prennent des coups de soleil. Et elle s'engage aussi aux côtés de Yannick Jadot, Donc là, on a un gros souci de casting, parce qu'il faut trouver l'acteur le moins charismatique possible. On a passé...
On veut des noms.
On a passé en revue tous les comédiens de Petits Secrets entre voisins, votre émission préférée. Impossible de trouver quelqu'un d'aussi fade que Yannick Jadot. Donc je sens qu'on va mettre une effigie en carton recyclable. On suit le parcours de Sandrine jusqu'en 2022. Et en 2023, lors d'une attaque de purée au salon du camping-car, elle tombe amoureuse d'un vendeur de barbecue. Et après leur première nuit d'amour dans une yourte en Sologne, on découvre qu'il est l'héritier du groupe Taral. Vous voyez le dinar Taral.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
Eh oui, c'est tous les jours Arnaud qui nous fait rire sur RMC. 7h20, 8h20, on le retrouve tout à l'heure évidemment en direct pour ses rendez-vous avec Apolline et toute l'équipe. On va se marrer comme tous les matins. Ce sera à 7h20 et 8h20. Et tout de suite sur RMC à 5h25, c'est l'heure de vous faire gagner.
RMC,
la voix du jour.
Et c'est Loris qui a été le plus rapide ce matin. Loris qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Loris.
Bonjour à tous, comment
Bonjour.
Ça va?
Eh ben nous ça va très bien. Alors Loris, si j'en crois la fiche que j'ai sous les yeux, on est entre collègues, c'est ça? Vous êtes journaliste à la radio?
Exactement, je suis journaliste dans une radio locale dans le sud, donc à 7 dans l'Hérault.
Ok.
Là je vous écoute en même temps que je prépare ma matinale tranquillement.
Eh ben parfait, on vous accompagne de bon matin. Du côté de 7, bon, on embrasse tous vos collègues. Et on est entre confrères.
Ils dorment encore sauf l'animateur.
Ah bah voilà, courageux du matin. Et en plus vous allez peut-être être le gagnant de ce matin. Oui, Loris, on va vérifier.
On va voir si vous avez reconnu la voix du jour. On réécoute l'extrait diffusé juste après le journal de 5h. On a votre réponse juste après, Loris.
La réalité, c'est que les prix grimpent trop vite par rapport au pouvoir d'achat. Mais de l'autre côté, il faut déjà regarder si ces hausses de prix sont vraiment légitimes. Il y a trop de hausses de prix par anticipation et pas assez par justification.
Alors
Loris?
Alors, je pense à Michel-Édouard Leclerc.
Ah bah, je pense que c'est gagné, Loris. Bravo. Vous avez reconnu Michel-Édouard Leclerc qui sera l'invité d'Apolline ce matin à 8h30 sur RMC, mais qui dès maintenant vous permet de gagner
une mini enceinte portable Sony pour écouter RMC. Parfait. Puisque vous avez ce réflexe, très bon réflexe d'ailleurs.
Mais oui.
Bah, c'est ça, mais ça fait des années.
Eh bah, bravo, Loris. Excellent réflexe. Et on vous envoie votre enceinte du côté de l'Hérault, du côté de 7. Et on salue, tous vos collègues de votre radio locale ce matin. Un salut confraternel, Loris. Il est 5h27, bientôt le journal de 5h30. Mais comme tous les matins, votre petit bonus, l'info en plus d'Anaïs, avec un événement aujourd'hui, la grande première sur scène du retour de Starmania.
Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir.
Oui, alors ne vous y trompez pas, ça c'est l'original, la comédie musicale créée par Michel Berger et Luc Plamondon avec Daniel Balavoine. 43 ans après, l'Opéra Rock revient une nouvelle fois avec une troupe qui s'est étoffée de 12 danseurs, 6 musiciens, des artistes qui vont reprendre tous les tubes de Starmania quand on arrive en ville, mais aussi...
J'aurais voulu être un
ami. Et ça va nous donner l'occasion de voir à quel point Michel Berger était visionnaire, puisque dans cette satire, on retrouve des sujets qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, l'écologie, le terrorisme, le star system, mais aussi la solitude. À voir à partir d'aujourd'hui à la scène musicale Boulogne-Billancourt aux portes de Paris, avant une grande tournée dès le 10 février dans tout le pays.
Le retour donc de Starmania, nouvelle version à partir d'aujourd'hui sur scène, oui, scène musicale près de Paris, avant la grande tournée partout en France, le monde est stone.
RMC jusqu'à 6h30, Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 5h40, bon réveil sur RMC. Alors face à cette inflation, la grande distrib doit-elle faire plus d'efforts pour limiter la hausse des prix?
C'est la question du jour sur RMC.
Et notez bien le rendez-vous, Michel-Édouard Leclerc est ce matin sur RMC, invité du face-à-face à 8h30 face à Apolline de Malherbe. Ce sera 8h30 sur RMC et BFM TV. Or, souvenez-vous, au mois de juillet dernier, Michel-Édouard Leclerc avait lancé des accusations. Il dénonçait, je cite, des hausses suspectes et non transparentes des prix de certains produits crise alimentaire. En fait, il accusait certains industriels de l'agroalimentaire d'être des profiteurs de crise, de surfer sur l'inflation pour gonfler leurs marges.
Face à ces accusations, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a commandé un rapport à l'inspection générale des finances pour démêler le vrai du faux, s'assurer que les industriels et la grande distribution jouaient le jeu face à l'inflation. Et hier matin, sur RMC, Bruno Le Maire a détaillé les conclusions de ce rapport.
Les marges de la grande distribution ont légèrement diminué. Les marges de l'industrie agroalimentaire se sont effondrées. C'est-à-dire que les bénéfices de l'industrie agroalimentaire, aujourd'hui, sont beaucoup plus faibles qu'ils ne l'étaient en 2019. Les seuls qui sont protégés, même si je le dis avec prudence, parce qu'il y en a qui souffrent beaucoup aujourd'hui, c'est les agriculteurs, grâce à la loi Egalim qu'a voulu mettre en place le président de la République. Quelle est la conclusion que je tire de tout ça ? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de profiteur sur les prix de l'alimentation.
Voilà, pas de profiteur, dit Bruno Le Maire. Et dans le détail de ce rapport, on constate, Anaïs, en fait, que ce sont les industriels qui ont fait le plus d'efforts.
La rentabilité de l'industrie agroalimentaire a baissé de 16% entre 2019 et le premier semestre 2022, alors que celle de la grande distribution a baissé de seulement 1%. Par ailleurs, celle des agriculteurs a augmenté de 12%, notamment grâce aux effets de la loi Egalim 2.
Oui, des agriculteurs relativement protégés, une grande distribution qui a fait un petit effort de 1%, et au milieu, entre les deux, il y a les industriels qui, eux, ont vu leurs marges s'effondrer, Victor Joannin.
Ce sont les petites et moyennes entreprises de l'alimentaire qui sont les plus fragilisées, et plusieurs marques bien connues des rayons de supermarché, comme les desserts Marie Morin ou les confitures Lucien Georgelin souffrent. Selon la fédération de ces entreprises, 20% ont déjà dû licencier du personnel et 40% envisagent de réduire leur production. Voilà pourquoi le président de cette fédération, Léonard Prunier, appelle la grande distribution à accepter d'acheter plus cher leurs produits.
Notre métier, c'est de fabriquer des produits au meilleur coût et après, aux distributeurs, on leur demande d'accepter plus rapidement nos hausses. Les coûts augmentent au moins toutes les semaines. Il y a beaucoup de variations sur nos achats, donc c'est pour ça qu'on a besoin que ce système soit plus rapide et plus réactif et qu'il y ait une confiance dans nos relations entre industrie et commerce.
Et preuve que sur le terrain, ça bloque encore. Les négociations débutées en mars dernier entre les industriels et les enseignes n'ont toujours pas abouti dans un tiers des cas.
Voilà les précisions de Victor Joannin. On se pose la question d'ailleurs ce matin, est-ce que c'est désormais à la grande distribution de faire plus d'efforts, de réduire ses marges pour sauver ces entreprises, ces PME de l'agroalimentaire? Vous travaillez en grande distrib, vous n'hésitez pas ce matin à composer le 32-16, parce qu'en attendant, dans les rayons, eh bien le prix payé par le consommateur, lui, ne cesse d'augmenter, Anaïs.
L'inflation était de 6,2% en octobre, de 12% sur les produits alimentaires. En tête des produits dont le prix a le plus augmenté, les viandes surgelées avec un record d'inflation de plus de 30%, les mouchoirs en papier plus 28%, les pâtes plus 24%. Résultat, les consommateurs ont changé leurs habitudes. Ils se tournent davantage vers des enseignes de hard discount comme Lidl, Aldi et délaissent de plus en plus les marques au profit des premiers prix qui coûtent moins cher aujourd'hui, 35% moins cher, un écart qui a considérablement augmenté l'an dernier.
Et bah alors vous venez nous dire ce matin si le contenu de votre caddie, tout simplement, a évolué ces dernières semaines, ces derniers mois, sous l'effet de l'inflation. Comment vous vous adaptez? Bruno a composé le 32-16 depuis l'Essonne, c'est ça? Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bonjour Bruno.
Ça va bien?
Nous très bien. Et vous Bruno, ce matin?
Ah ben ça va, j'ai assisté à la victoire de Corinne Garcia, donc c'est fabuleux.
Ah ben voilà, on a vibré ensemble ce matin sur RMC, ben oui, c'était un peu avant 5h la balle de match. On l'a vécu quasiment en direct, cette victoire de Caroline Garcia. Ben je vais le rappeler du coup Bruno, si vous venez de nous... Pour ceux qui viennent de se réveiller, Caroline Garcia, première française depuis 17 ans, a remporté un Masters de tennis, le Masters WTA du Texas, remporté cette nuit par Caroline Garcia. On va y revenir largement dans notre journal tout à l'heure à 6h. Mais en attendant, Bruno, ce qui vous a fait appeler ce matin au 32-16, eh ben c'est l'inflation. Est-ce que votre caddie a changé?
Alors, pas forcément mon caddie a changé, parce que moi, je vais souvent dans les bacs anti-gaspi. Et il y a depuis quelques années maintenant, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui allaient en reculant et qui avaient relativement honte, entre guillemets, de pouvoir aller dans ces bacs anti-gaspi.
Parce qu'on va préciser, Bruno, dans ces bacs, ce qu'on trouve, bah, c'est des produits, par exemple, dont la date de péremption approche. Oui, voilà, il faut le manger aujourd'hui ou
c'est
demain.
C'est des DLC, voilà, où en général, c'est pas forcément moitié prix, mais c'est beaucoup, beaucoup moins cher, oui, ça c'est sûr. Donc c'est vrai qu'il faut avoir le temps. Moi, j'ai de la chance d'avoir un supermarché qui est pas très loin de chez moi, donc j'y vais quasiment tous les 2-3 jours et je prends à manger pour 2-3 jours maximum, parce qu'au moins comme ça je jette rien, ni fruits ni légumes, et encore même les fruits et légumes je les prends pas au supermarché, je les prends dans un petit primeur qui est en bas de chez moi, un petit ambulant où là il y a quasiment pas de charge, pas de frais, mais c'est sûr que les fruits et les légumes que je cherchais chez lui, il faut que je les consomme dans les 2-3 2-3 jours parce que sinon après c'est mort.
J'ai l'impression que de plus en plus de Français font comme vous, hein, et d'ailleurs que ces bacs anti-gaspi ont grossi ces derniers temps.
Oui, oui, mais ils grossissent de toute façon. Oui, bien sûr qu'ils grossissent. Parce que vu les prix qui sont pratiqués, les gens n'achètent pas. Donc, comme les supermarchés, en plus de ça... Alors moi, je suis célibataire. Donc, c'est vrai que quand on prend ne serait-ce que des yaourts où on prend 16 pots et que vous voyez, pour un pack acheté, le deuxième à 50%, ça fait 32 pots. Il faut les manger, les 32 pots.
Oui, oui, bien sûr. Oui, ça, on est moins concerné quand on est célibataire. Mais Bruno, vous, oui, il y a aussi d'autres... Il y a des alternatives voilà, dans ces bacs anti-gaspi. Vous arrivez à calculer combien vous économisez en allant faire vos courses tous les 2-3 jours, en achetant comme ça uniquement pour 2-3 jours et en choisissant les prix cassés.
J'ai été hier, ben, pour vous répondre, j'ai été pour 25 euros. Si je n'avais pas pris anti-gaspi, j'en ai pour un peu plus de 40 euros.
Ah ouais, bah, ouais. C'est loin d'être négligeable, évidemment.
C'est pas négligeable. Comme économie. Mais par contre, je fais quelque chose aussi que je faisais pas avant, c'est que je systématiquement, quand je prends un produit dans les rayons, je vais systématiquement le vérifier aux bornes. Parce que bien souvent, il y a des écarts entre le prix qui est indiqué dans les rayons et le prix qu'on paye effectivement à la caisse.
Ah oui,
donc ça peut être un souci.
Donc il faut être aussi vigilant.
Une vidéo qui tourne actuellement où il y a une promotion sur les 10 litres de lait à 9 euros. Et quand on prend le litre de lait à l'unité, il est à 72 centimes. C'est une vidéo virale qui tourne en ce moment. Donc, j'invite les gens à faire attention et puis à vérifier les prix aussi par la même occasion.
Oui.
Mais c'est vrai que les bacs anti-gaspi, c'est quelque chose, ben voilà, mais c'est sûr qu'il faut avoir un supermarché à côté de chez soi. Moi, j'ai changé mes horaires aussi à laquelle je vais faire mes courses. J'y vais le matin tôt, soit j'y vais. Oui, oui.
Et pourquoi? Qu'est-ce que ça change?
Le matin tôt. Parce que le bac se remplit en fonction de la journée.
D'accord, et donc vaut mieux y aller en fin de journée, par exemple ?
Oui, je fais souvent les courses entre 19h30 et 20h, parce que à partir de 19h, les employés, quand c'est des produits frais, font des étiquetages où là, effectivement, il faut liquider, parce que sinon, ils jettent, et donc je passe à ce moment-là.
Écoutez, Bruno, c'est extrêmement concret. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage parce que c'est aussi des bons conseils, des bons plans. On ne le sait pas forcément. Voilà, que selon les horaires aussi, c'est le bac anti-gaspi est plus ou moins rempli. Et voilà, les alternatives de Bruno face à l'inflation. Alors, vous le disiez très bien, Bruno, ça demande aussi un peu de temps, de la vigilance, de vérifier le prix, d'y aller aussi tous les 2-3 jours parce que c'est le principe. On paye moins cher dans le bac anti-gaspi, mais c'est des produits qui se périment beaucoup plus vite. Mais ça demande un peu de temps, mais c'est l'effort qu'il faut faire, voilà, pour limiter les effets de l'inflation sur notre porte-monnaie. Merci beaucoup Bruno d'être venu témoigner, c'était très concret. Et on va reparler plus globalement de ce nouveau comportement des consommateurs. Est-ce que aussi vous avez peut-être changé de supermarché, vous êtes passé au hard discount ces dernières semaines, ces derniers mois? Venez nous le dire ce matin au 32-16 parce qu'Olivier Dauvers, journaliste spécialiste de la grande distribution, sera notre invité juste après 6h justement pour nous détailler tous ces nouveaux comportements des consommateurs face à l'inflation. Mais tout de suite à 5h48, vous avez deux rendez-vous sur RMC, deux hommes que vous attendez. Anthony Morel, bonjour.
Bonjour.
Avec toi, encore des robots ce matin.
Ouais, absolument. On connaissait la machine à laver le linge, on connaissait le sèche-linge. Oui. On vous présentait la machine à plier le linge.
Magnifique.
Incroyable.
Et alors, est-ce qu'elle peut aussi mettre la housse de couette sur la couette?
Non, ça, elle ne le fait pas encore.
Ah, voilà.
Une technologie a ses limites.
Pour l'instant. Mais on verra à l'avenir. Et puis, Arthur Asquin, bonjour.
Bonjour, Charles. Moi, je vais te parler d'une naissance par mère porteuse très, très originale.
D'accord. Et on va tout savoir dans un instant. 5h51, si vous venez de vous réveiller, voici les toutes dernières informations à la une sur RMC avec Anaïs.
Caroline Garcia a remporté la finale du Masters WTA Fort Worth au Texas cette nuit. C'est l'information de la nuit, victoire en 2-7 contre Aryna Sabalenka. 17 ans qu'une Française n'avait pas remporté le Masters. À retenir également ce matin dans l'actualité, une enquête ouverte après le décès d'une patiente de 77 ans à l'hôpital de Dijon. Sa famille accuse le CHU de ne pas l'avoir nourrie pendant plusieurs jours alors que son opération avait été repoussée à plusieurs reprises. Et puis les 50 entreprises les plus polluantes du pays convoquées à l'Elysée aujourd'hui. Emmanuel Macron va leur demander de faire des efforts alors que la COP27 se poursuit en Égypte.
Géraldine Demory, météo agitée.
Surtout sur le nord-ouest avec l'arrivée d'une perturbation qui apporte des averses, du vent, un peu de pluie aussi près de la Méditerranée avec des entrées maritimes et des températures qui restent stables. Donc c'est toujours assez doux, hein, 14 à 18 degrés sur la moitié nord cet après-midi, 19 à 23 degrés pour le sud.
On va y revenir en détail dans quelques minutes, Géraldine, mais tout de suite c'est l'heure de parler repassage.
C'est déjà demain.
avec Anthony Morel. Rebonjour Anthony.
Bonjour.
La tech au service de notre linge. Tu as trouvé peut-être le Graal, le robot, la machine capable de trier, de plier et de repasser le linge à notre place.
Ouais, peut-être que dans quelques années trônera à côté de notre machine à laver une machine à plier. Ça fait des années qu'on nous la promet et les choses avancent à l'image de ce robot qui vient de battre un record de pliage de linge. Parce que croyez-le ou non, il y a des concours de vitesse de robots qui plient des chemises. Bon voilà, chacun passe ses dimanches comme il veut. Ça s'appelle le Speed Folding. C'est des chercheurs de l'université de Berkeley aux États-Unis qui ont mis ça au point. Un appareil assez étonnant qui prend la forme de deux bras articulés équipés de pinces capables de se saisir délicatement d'une chemise ou d'un pantalon dans un tas en vrac, donc de faire la différence entre les différents types de vêtements, de le poser à plat, de le plier méticuleusement. Il peut plier 40 vêtements par heure sans aucune assistance humaine avec un niveau de précision de 93%. Alors vous allez me dire, 40 vêtements, c'est pas incroyable. Moi, je fais beaucoup mieux, par exemple. Oui, c'est vrai, mais vous êtes humain. Les robots jusqu'ici arrivaient à plier difficilement 40 par heure.
Non, j'en fais pas 40.
Oh bah si, quand même. Un vêtement par minute.
Je les plie pas.
Ah oui, c'est plus simple. Ça, c'est la solution. C'est vrai, la plus facile. Mais non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour un robot, c'est très, très, très compliqué. C'est-à-dire d'appréhender ce qu'on appelle une matière molle, une serviette. C'est compliqué de se. Voilà, pour un cerveau humain, c'est facile de comprendre comment toucher, mettre la bonne pression pour chaque objet. Mais pour une machine, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, grosse performance technologique.
Bon, quand est-ce qu'on peut espérer vraiment avoir un appareil qui plie le linge à la maison et combien ça va nous coûter?
Alors, ça va arriver parce qu'effectivement, on ne va pas installer forcément un robot comme celui que je viens de vous décrire. En revanche, ça pourrait s'intégrer dans des machines, des appareils électroménagers. En fait, je pense par exemple au Foldimate qui a été présenté sur des grands salons high-tech. Alors, ça prend la forme d'un gros rectangle, un peu comme une machine à laver finalement. Et dans cette machine, eh bien, vous allez pouvoir mettre vos vêtements. La machine va avaler un pull, une chemise, un t-shirt.
Et à l'intérieur, sur tous les sujets.
Ah bah bien sûr, c'est voilà.
C'est bon bruit fétiche.
C'est bon bruit. C'est vrai parce que ça fait deux jours de suite, je sais pas pourquoi. Eh bien, il va se saisir de chaque pièce, il va le défroisser en envoyant de la vapeur, le poser sur une sorte de planche, le plier, le parfumer, et le résultat sort d'un bac placé en bas de l'appareil. Tout votre linge plutôt ressort plié dans une pile. Et là, pour le coup, il faut une dizaine de secondes seulement pour plier un t-shirt, par exemple. Faut compter à peu près 700 euros pour une machine comme celle-ci. On peut la précommander sur internet. Donc le Foldimate, c'est l'ami qui plie. Littéralement.
Ah bah c'est pas mal. Et pour repasser, on fait comment?
Alors, pour repasser, là encore, on va avoir des machines qui arrivent. Une machine qui s'appelle la EFI, qui est une grosse boîte rectangulaire avec des cintres à l'intérieur. Donc, vous mettez les vêtements sur les cintres, on appuie sur un bouton, la machine se met en marche, elle envoie de la vapeur, une presse métallique va faire un va-et-vient sur chaque pièce pour supprimer les plis, exactement comme si vous repassiez avec un fer. Ça fonctionne avec du jean, du coton, de la soie. Ça coûte autour de 700 euros, mais c'est encore une fois en précommande. On peut pas encore l'acheter, elle n'est pas encore sortie complètement. Et alors, la dernière innovation, c'est un truc qui avait gagné un prix au concours Lépine il y a 2 ou 3 ans. C'était une machine à repasser avec les mains. Ça ressemble à une planche traditionnelle, sauf que le plateau est chauffant avec une soufflerie intégrée qui crée un coussin d'air à la surface de la planche qui permet aux vêtements de se défroisser. Et ensuite, vous avez juste à caresser le linge pour le repasser. Mais ça fonctionne très très bien et c'est notamment intéressant pour les matières fragiles, genre la soie. Avec un fer traditionnel, on peut l'abîmer, alors qu'avec les mains, forcément, c'est beaucoup plus délicat.
Incroyable. Le repassage du futur ce matin avec Anthony, c'était passionnant. Et c'est retrouvé évidemment en podcast quand vous le voulez sur l'appli RMC. Le podcast de C'est déjà demain avec Anthony Morel. 5h55, c'est l'heure de sourire avec l'histoire d'Arthur.
RMC, Charles Matin, l'histoire d'Arthur.
Arthur Asquin qui ce matin nous parle d'une naissance très spéciale.
Oui, dans l'Utah aux États-Unis, le 2 novembre, Jeff et Cambria Oak ont accueilli la venue au monde de leur 5e enfant, une petite Anna. Le couple a toujours eu envie d'avoir une famille très très nombreuse. Ils prévoyaient même d'avoir 7 enfants exactement.
Sept à la maison, c'est ça.
Ouais, ça me rappelle des souvenirs, plus ou moins bons d'ailleurs. Bon, à chaque grossesse, c'était quand même un peu le parcours du combattant. Malheureusement, Cambria, la maman, avait des problèmes de fertilité. Elle est passée par des fécondations in vitro pour les aînés, des jumelles, idem pour les jumeaux juste derrière. Et malheureusement, elle a dû subir plus tard une ablation de l'utérus.
Bah alors, comment ils ont fait pour avoir un 5e enfant? Ils ont adopté?
Eh bien, le couple a envisagé plusieurs options. L'adoption, oui, mais finalement, ils ont choisi d'avoir recours à une mère porteuse. Alors, c'est tout à fait légal aux États-Unis. D'ailleurs, Jeff et Cambria n'ont pas eu à chercher bien loin pour trouver une candidate. Elle s'appelle Nancy. Elle avait quand même déjà 56 ans. Ça, c'est pas commun. Et ce qui est encore moins commun, eh ben, c'est qu'il s'agit de la mère de Jeff, le papa du futur bébé. Et c'est elle qui s'est proposée.
C'est bizarre, quand même.
Alors, évidemment, à 56 ans, une telle grossesse comportait moult risques. Mais finalement, tout s'est bien passé. Et Nancy, la grand-mère, eh ben, elle a mis au monde son propre petit-fils.
Oh, waouh. Wow.
Ouais. Non, mais.
Il est mère et grand-mère en même temps, en fait.
Ouais, ça.
Ah, ouais,
non, ça... je sais pas.
Ah, ouais. Bon, d'accord. Ouais.
Hyper bizarre.
Bah, oui.
D'accord. Non, non.
Elle a fait un acte incroyable pour son fils.
Ouais. Oui, absolument.
Oui, oui.
Bon, bah, ça, comme ça.
Ouais, je peux remercier sa maman d'avoir porté son bébé.
Ouais, voilà, ouais. C'est ça.
Il va falloir prévoir un petit budget analyse pour tout le monde. Bref, ça fait des bons repas de Noël, en tout cas, des belles anecdotes à se raconter en
anecdote.
Famille, on l'imagine, à 5h57. C'est bientôt l'heure du journal, mais d'abord, le petit bonus. Tous les matins, l'info en plus d'Anaïs, avec tiens, la finale de la Star Academy qui aura lieu à 22h le 26 novembre prochain. Et ça fait hurler les fans du programme, Anaïs.
Ne partez pas sans moi.
Oui, parce qu'il va falloir veiller tard pour pouvoir la suivre. Normalement, les primes ont lieu à 21h15. Je sais que tu n'en manques pas un. Mais ce jour-là, TF1 doit diffuser le match de Coupe du Monde Argentine-Mexique à 20h. La chaîne a donc dû décaler la finale de son programme phare à 22h. Solution qui ne convient pas du tout à certains internautes qui s'étonnent que TF1 n'ait pas changé le jour de la finale de la Starac pour la remettre le 25 par exemple. J'ai regardé en fait le 25, il y a Angleterre-États-Unis à la même heure. Donc en fait, ils n'avaient pas vraiment le choix.
Voilà, mais donc ça fait râler les fans de la Star Academy. Bon, pourquoi pas, chacun ses combats, mais il y aura donc priorité au foot pendant la Coupe du Monde. On peut aussi comprendre TF1 parce que moi, ça me fait plus rêver là pour l'instant, cette Argentine-Mexique programmée à 20h. Et puis vous vivrez évidemment sur RMC toute cette Coupe du Monde.
Mardi 8 novembre, l'info sur RMC.
Il est précisément 6h, vous êtes bien sur RMC, c'est l'heure de votre journal qui vous est présenté par Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Victoire cette nuit de Caroline Garcia en finale du Masters de tennis au Texas. 17 ans qu'une Française n'avait pas gagné le tournoi. Une grande annonce, mardi prochain, déclaration de Donald Trump cette nuit depuis l'Ohio. Donald Trump qui laisse entendre qu'il pourrait être candidat en 2024. Coup de pression au moment où commencent les élections de mi-mandat aux États-Unis. À Paris, Anne Hidalgo fait exploser la taxe foncière, plus 50%. La maire renonce à ses promesses et pointe du doigt la crise de l'énergie.
Et on commence donc avec la joie de Caroline Garcia, grande gagnante du Masters au Texas cette nuit.
Victoire en 2-7 face à la Biélorusse Sabalenka. 17 ans, et oui, 17 ans qu'une Française n'avait pas gagné ce tournoi qui rassemble les meilleures joueuses du monde. Eric Salio, vous avez suivi cette finale pour RMC. Caroline Garcia s'offre le plus beau titre de sa carrière.
Ah ouais, ouais, chapeau de cow-boy texan sur la tête, sourire éclatant au moment de soulever le trophée, les bisous de ses parents. Caroline Garcia a vraiment savouré l'instant. Elle a remporté, vous l'avez dit, le plus beau titre de sa carrière, rejoignant au palmarès Amélie Mauresmo, sacré en 2005, face à Marie Pierce. Il n'y a pas de conte de fées dans le tennis, mais quand même, la trajectoire de la Lyonnaise était bourrifante en béquille au printemps, après une intervention au pied. Elle a très vite retrouvé son tennis, décrochant 3 titres sur 3 surfaces différentes. Demi-finaliste à l'US Open. Elle avait abordé ce master dans l'inconnu après le départ de son coach pour des raisons extra-sportives. Mais à Fort Worth, elle a su se remobiliser après une défaite en poule face à la numéro 1 mondiale Iga Swiatek pour finir sur 3 succès. Et grâce à cette fabuleuse semaine, Caroline Garcia va achever l'année à la 4e place mondiale. Et elle se rendra en Australie en janvier prochain avec des ambitions renforcées. Ce sacre peut être un toboggan. L'année suivante, son titre au Masters, Amélie Mauresmo avait remporté 2 grands chelems.
Le conte de fées de Caroline Garcia au Texas, finale gagnante, grande gagnante de la finale du Masters aux États-Unis. Une autre info de la nuit. Depuis un meeting dans l'Ohio, Donald Trump a promis une très grande annonce mardi prochain.
Nous sommes une nation qui a perdu sa confiance, sa volonté et sa force. Mais nous sommes une nation qui ne va pas laisser cette horreur se poursuivre. Nous serons bientôt à nouveau une grande nation. Je vais faire une très grande annonce le 15 novembre prochain à Mar-a-Lago, en Floride.
Donald Trump qui entretient le suspense autour de son retour pour la présidentielle en 2024, au moment où commencent les élections de mi-mandat aux États-Unis, qui pourraient mettre en difficulté Joe Biden. Le président américain fragilisé appelle de son côté à défendre la démocratie.
La COP 27 se poursuit en Égypte.
La solidarité ou le suicide collectif, formule choc du patron de l'ONU qui met la pression sur les pays riches. Message relayé par Emmanuel Macron hier, qui appelle aussi à protéger les fonds marins. Des discours donc depuis l'Égypte et du concret aussi de retour en France. Dès ce matin, le président de la République reçoit à l'Élysée les représentants des 50 usines françaises les plus émettrices de CO2. Un objectif, les verdures. Illustration à Fos-sur-Mer dans la très polluante usine métallurgique d'ArcelorMittal, où l'on est encore très loin du compte, Lionel Dian.
Des projets de décarbonation, il en existe chez ExxonMobil, mais pas en France, comme le déplore Lionel Arbiol, délégué CGT du groupe.
C'est un projet qu'ExxonMobil a au niveau mondial. C'est la capture et le stockage de CO2, notamment sur le marché américain. Des projets qui sont mis en place s'il y a des aides aussi publiques, notamment aux États-Unis, quoi. Mais il n'y a pas aujourd'hui de projet en France sur, par exemple, la production d'énergie verte ou de décarbonation.
De l'argent public, de nombreuses entreprises en demandent à l'État français pour aller vers moins de pollution, ce qui révolte Daniel Moutet, président de l'Association des riverains du Golfe de Fos, où se situent plusieurs sites industriels.
Il faut arrêter parce que c'est tout le temps l'État qui paye, c'est-à-dire nos impôts, mes impôts. Ils gagnent assez d'argent, les industriels, pour en mettre sur la décarbonation. C'est parce qu'ils ont déjà 15 ans de retard pour vraiment arriver à une neutralité de carbone. C'est ce qu'on cherche, mais il aurait fallu commencer il y a 15 ans.
Des industries dont beaucoup sont aujourd'hui vieillissantes.
Un nouveau scandale de violence sexuelle dans l'église. 11 évêques ou anciens évêques mis en cause devant la justice. Des révélations inattendues hier lors de la conférence des évêques de France. C'était à Lourdes. Parmi eux, le Monseigneur Ricard, l'ex-évêque de Bordeaux. 35 ans après les faits, il a reconnu une conduite répréhensible sur une mineure. Journée noire à prévoir. Jeudi, dans les transports en Île-de-France, trafic très perturbé dans les métros, les bus et sur les lignes A et B du RER, nous dit la RATP, en cause une nouvelle journée de grève pour les salaires et les conditions de travail. Les Parisiens qui vont aussi devoir payer une taxe foncière en plein boom. Bonjour Romain Hougue.
Bonjour.
Anne Hidalgo n'a pas tenu sa promesse électorale. Cet impôt local va augmenter quand même de 50%.
Oui, le taux d'imposition va passer de 13,5% à 20% l'année prochaine. C'est plus 7 points. Si on prend un exemple concret, disons le propriétaire d'un appartement de 50 mètres carrés à Paris, sa taxe foncière passera de 438 euros en moyenne aujourd'hui à 665 euros en 2023. La faute à une situation budgétaire difficile à la ville de Paris. Dans une lettre adressée aux Parisiens, Anne Hidalgo se défend. La taxe foncière de la capitale est aujourd'hui la plus basse de France. Elle n'a pas augmenté depuis plus de 10 ans, écrit-elle. Paris, c'est plus de 2 millions d'habitants, mais seulement 32% de propriétaires. L'augmentation devrait rapporter un demi-milliard d'euros dans les caisses de la ville. Des exonérations sont toutefois prévues, notamment pour les propriétaires les plus précaires et pour ceux qui engageront des rénovations thermiques.
Merci Romain Hougue. On va vous parler maintenant d'un geste, romantique. La demande en mariage du joueur de foot brésilien Pedro, alors que son entraîneur annonçait la liste des 26 joueurs sélectionnés pour le mondial au Qatar. Il a filmé sa réaction et puis d'un coup, genou à terre face à sa fiancée. C'est un jour spécial et j'ai fait en sorte qu'il soit encore plus spécial, a dit le buteur brésilien de 25 ans. Première Coupe du Monde pour Pedro, premier mariage aussi. Et j'espère pour le coup qu'il n'y en aura pas d'autres.
Ah bah oui, enfin, qu'il y aura d'autres Coupes du Monde. Mais...
oui, mais pas d'autres mariages.
Pas d'autres mariages, on verra. Ça c'est la vie après de Pedro, le jeune
ça
brésilien.
Ça ne nous regarde pas.
Voilà, c'est sa vie, mais cette demande en mariage, donc oui, pour fêter sa sélection à la Coupe du Monde. Oui, et Marguerite Dumont, elle est sélectionnée pour le journal de 7h tout à l'heure sur RMC.
Me voilà contente.
Voilà, de Marguerite. Exactement. Allez, il est 6h07. Et ben, c'est l'heure du coffre.
Oserez-vous ouvrir le coffre RMC ?
Le coffre RMC.
Oserez-vous ouvrir le coffre RMC? Vous savez que la Coupe du Monde approche et qu'RMC vous gâte avec plein de produits high-tech de bon matin. Voilà, le coffre s'installe sur la table en même temps que je vous parle. Et c'est Gwenaëlle qui est avec nous pour jouer depuis la Vendée. Bonjour Gwenaëlle.
Bonjour.
Eh ben, d'abord bravo Gwenaëlle.
Merci beaucoup.
Parce que vous avez gagné, quoi qu'il arrive. Il y a un premier cadeau qui est pour vous. Je suis en train d'ouvrir l'enveloppe en même temps que je vous parle, Gwenaëlle. Donc on va le découvrir ensemble. C'est parti, j'ouvre l'enveloppe et Gwenaëlle, vous avez gagné un iPad, voilà, la tablette, l'iPad, il est pour vous, Gwenaëlle, ça c'est un super cadeau. Mais attention, attention Gwenaëlle, vous pouvez aussi choisir de le remettre en jeu, parce que vous pouvez remettre en jeu votre iPad et ouvrir le coffre RMC. Alors dans le coffre, Gwenaëlle, il y a soit une paire d'écouteurs sans fil, vous savez, les fameux AirPods, ou bien carrément la totale Coupe du Monde RMC avec un pack dans lequel vous aurez une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox, bref, des très beaux cadeaux. Alors Gwenaëlle, est-ce que vous remettez votre cadeau, est-ce que vous remettez votre tablette en jeu?
Eh bien écoutez, le choix n'est pas facile, mais je vais la remettre en jeu parce que je suis une joueuse.
Eh ben, allez, ben on tente ensemble. Alors là, je vais, attention, composer le coffre du coffre. Hop, je l'ouvre en même temps, Gwenaëlle, et dans le coffre se trouvent des AirPods qui sont pour vous. Les
super
écouteurs sans fil d'Apple, on vous les envoie en Vendée, Gwenaëlle, c'est gagné.
Super, mais merci beaucoup, c'est gentil.
Bah, ça nous fait très plaisir de vous gagner, de vous gâter. Vous êtes levé de bonne heure pour le boulot, Gwenaëlle?
Non, je débauche, je suis de nuit, moi.
Ah, bah voilà, une belle manière de terminer cette nuit
exactement
de boulot.
Exactement.
Et ben, on vous raccompagne avec RMC,
merci,
c'est ça
beaucoup.
Je sais pas
et on vous envoie
souhaite
tout ça.
Oui, on vous souhaite bonne journée ou bonne nuit, comme vous voulez. En tout cas, on est avec vous sur RMC de bon matin. Et le coffre, attention, notez bien, reviens là dans quelques minutes avec Apolline. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Vous envoyez le mot coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Et vous serez peut-être tiré au sort là dans quelques minutes pour jouer avec Apolline et tenter votre chance. Quoi qu'il arrive, vous gagnez. Et ensuite, vous choisissez d'ouvrir ou pas le coffre RMC. Il est 6h09. La suite du programme, avant 6h30, avant l'arrivée d'Apolline de Malherbe, il y aura deux rendez-vous dans quelques minutes, votre story sport, et puis on va parler économie avec Emmanuel Le Chypre, mais tout de suite.
On va parler de vous, consommateurs, comment faites-vous face à l'inflation? Hard discount, changement d'enseigne, arbitrage entre qualité et quantité?
Eh bien, on va en parler avec le journaliste spécialiste du secteur, Olivier Dauvers, qui est notre invité tout de suite.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Bon réveil à tous sur RMC, il est 6h11.
L'invité de Charles Matin.
Bonjour Olivier Dauvers.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste de la grande distribution, on vous connaît bien sur RMC. Je rappelle que Michel-Édouard Leclerc sera à 8h30 l'invité d'Apolline de Malherbe dans le face-à-face sur RMC et BFM TV. Michel-Édouard Leclerc qui accusait en juillet certains industriels de gonfler artificiellement leurs prix. Depuis, le gouvernement a mené son enquête avec un rapport de l'Inspection Générale des Finances et Bruno Le Maire nous en a dévoilé hier matin les conclusions. Il n'y aurait pas de profiteurs de crise, dit-il. Au contraire, les industriels de l'agroalimentaire auraient drastiquement réduit leurs marges. La grande distribution, elle, aurait un peu moins joué le jeu. C'est ça, hein, Olivier Dauvers?
C'est un peu réducteur quand même, parce qu'en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on n'avait pas de chiffres, quand on n'avait rien d'officiel, tout le monde accusait tout le monde. Je vous rappelle aussi qu'on a entendu les agriculteurs accuser les distributeurs, vous l'avez dit, accuser les industriels. Bref, en gros, personne ne voulait passer pour le responsable de l'inflation, parce qu'en fait, c'était ça l'enjeu, y compris en termes de communication. Et donc, au final, à la fin du match, l'arbitre siffle, et qu'est-ce qu'il voit? Ben, que finalement, tout s'est passé comme ça devait se passer, donc finalement, on était dans des postures précédemment, ce qui ne veut pas dire que sporadiquement, il n'y a pas eu des tentatives ou des mauvaises pensées, parce que ça s'appelle l'économie tout simplement, vous savez.
Il n'y a pas eu de profiteurs de la crise, mais il y a eu visiblement plus d'efforts côté industriel que côté grande distribution quand même.
Ben de toute façon, vous savez, dans une chaîne alimentaire, celui qui a le plus de pouvoir a le plus de force. C'est une banalité de le présenter ainsi, mais celui qui a le plus de pouvoir, in fine, c'est bien nous, le consommateur. D'ailleurs, dans notre pratique, dans nos arbitrages, on voit qu'on va plutôt vers les enseignes les moins chères. Ensuite, le deuxième qui a le plus de pouvoir, c'est le distributeur, parce que c'est le plus près du consommateur, qui le répercute sur l'industriel, et ainsi de suite. Donc, finalement, moi, il n'y a rien qui me surprend, franchement, dans les conclusions de cette enquête officiel, on va dire.
Alors, allons justement sur le comportement des consommateurs, ceux qui ont le plus de pouvoir, comme vous le disiez, Olivier Dauvers. Est-ce que leurs comportements ont changé là ces dernières semaines, ces derniers mois? On parle quand même de 12% d'inflation sur les produits alimentaires en un an pour le mois d'octobre. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des enseignes ou des produits qui sont gagnants, en fait?
Alors, il y a trois comportements que l'on anticipait et que l'on voit. Le premier, c'est que le consommateur va se réfugier. Hein. Vous savez, quand on a peur, on se réfugie. Mmh. C'est un comportement assez normal. Eh bien, le consommateur se réfugie vers les enseignes les moins chères. Et schématiquement, les deux grands gagnants de l'année, c'est ceux qui ont les deux meilleures images prix. C'est Lidl d'un côté, pour les discounters, et c'est Leclerc de l'autre, pour ce qu'on va appeler les hypermarchés classiques.
Alors, attention, juste, je vous coupe là-dessus, Olivier Devers, vous avez dit, c'est pas forcément, ça veut pas dire que c'est les moins chers, c'est ceux qui ont l'image la moins chère.
Oui, mais dans le temps, il se trouve que le consommateur est quand même assez fufute, figurez-vous, et qu'il donne en général la meilleure image prix à ceux qui sont les moins chers. D'accord. Aujourd'hui, personne conteste à Leclerc le fait que, non pas sur tout et tout le temps, mais en moyenne, c'est bien lui le moins cher. Que Lidl soit, par ses produits assez particuliers, puisque chez Lidl, il y a quasiment que des marques de distributeurs, ou en tous les cas, en très grande majorité, eh bien, c'est lui qui est le moins cher aussi. Donc, ça correspond à une réalité. Le deuxième comportement du consommateur que l'on anticipait et qui arrive, c'est ce qu'on appelle un arbitrage sur les quantités. C'est-à-dire, on baisse les quantités achetées parce qu'on tente ponctuellement de baisser les quantités utilisées. Un exemple, si je me démaquille ce soir, admettons pour l'exemple, eh bien, je peux utiliser deux cotons à démaquiller ou un seul. Si je me lave les dents, je peux mettre plus ou moins de dentifrice, plus ou moins de liquide vaisselle, etc., etc. Oui, et vous avez des produits qui s'utilisent à la dose et sur lesquels on peut baisser les quantités. Et la troisième évolution, c'est une descente en gamme. Ça veut dire que désormais, on achète un peu plus de marques de distributeurs, un peu plus de premier prix, et que finalement, chacun est en train de descendre pour une partie de ses achats d'un étage. Celui qui achetait des marques nationales achète de temps en temps des marques de distributeurs. Celui qui achetait des marques de distributeurs achète de temps en temps des premiers prix.
Eh bien, Olivier Devers, on va donner la parole tout de suite aux consommateurs, puisque Ilan a composé le 32-16 depuis Saint-Etienne, c'est ça? Bonjour Ilan.
Tous.
Bonjour Ilan, vous êtes chef d'entreprise, c'est ça?
C'est ça, tout à fait.
Et pourtant, vous aussi, vous êtes confronté à l'inflation, vous faites attention de plus en plus en faisant vos courses. Qu'est-ce qui a changé dans votre comportement là, ces dernières semaines, ces derniers mois?
Franchement, au quotidien, tout a augmenté, que ce soit la viande, que ce soit les grandes surfaces, que ce soit tout ça. Donc moi, pour m'adapter, du coup, je vais plutôt dans les déstockages. Dans les déstockages, les marchés de village, tout ça, donc c'est vraiment vraiment moins cher, donc on a plus accès directement aux producteurs.
Vous allez moins en tout cas en hypermarché qu'avant.
Mais j'y vais plus.
Plus du tout.
Ouais, pour être honnête avec vous, j'y vais plus du tout parce que moi j'ai deux enfants. Actuellement, on était à 600 euros par mois de courses. Actuellement, on est monté à 800-850 euros par mois.
Et donc vous avez trouvé, vous arrivez à faire des économies en choisissant peut-être des plus de quantité, des déstockages, comme vous dites, vous achetez plus, vous achetez ailleurs, d'autres circuits en fait.
En fait, c'est d'autres circuits. Le seul souci, c'est que ça arrive à des dates de péremption qui sont limites. Donc ça m'arrive souvent de manger des yaourts qui sont périmés et tout ça. Mais bon, quand on arrive à un stade où on n'a pas le choix, je me verse quand même. On est à 3000 euros net à deux, moi et ma femme. On a deux enfants et pour vous dire que c'est compliqué. Donc,
Vous vous adaptez, mais c'est très concret, Ilan, ce que vous dites, Olivier Devers. J'imagine que c'est un comportement que vous constatez aussi. Peut-être que les.
Oui.
Est-ce que les Français vont moins, tout simplement, en hypermarché comme Ilan?
Alors, globalement, c'est le système D et chacun trouve son propre système D. Est-ce que les consommateurs vont moins dans les hyper? Non, la réponse, elle est non.
D'accord.
Vous voyez, par exemple, le déstockage. Bien sûr, on peut faire des économies quand on va chez les magasins de déstockeurs, mais fort heureusement, pour ceux qui produisent les produits, il n'y a pas beaucoup à déstocker. Donc, ça veut dire que tout le monde ne peut pas aller chez les déstockeurs, tout simplement.
Oui, c'est du flux tendu.
Dans les faits aujourd'hui, vous avez un retour vers l'hypermarché, vers le discount tel que, par exemple, Lidl, tout simplement parce que c'est factuellement les moins chers. Voilà, c'est au détriment d'autres circuits.
J'ai une dernière question, Olivier Devers, sur ce comportement des consommateurs qui m'est venu ce matin en entendant justement tous les témoignages qu'on a eu au 32-16. J'ai l'impression que les Français vont plus souvent à l'hypermarché. On a eu beaucoup de témoignages de gens qui nous disaient avant, j'y allais une fois par semaine. Là, désormais, j'y vais tous les deux jours pour guetter une promo, un déstockage, etc. Il y a plus, ça me prend plus de temps, mais j'y gagne.
Ça correspond à deux comportements qui se mêlent en fait dans l'observation que vous faites, Charles. C'est d'un côté, vous portionnez vos achats pour des raisons de trésorerie, parce que ça fait des sommes plus petites à sortir. Et deuxièmement, vous êtes devenu très opportuniste, parce que quand vous êtes inquiet, vous vous réfugiez aussi dans la bonne affaire. Et donc, pour traquer les bonnes affaires, elles viennent pas à vous, c'est à vous d'aller à elles. Donc oui, c'est un comportement qu'on observe.
Merci beaucoup, Olivier Devers, d'avoir été avec nous de bonne heure comme ça, en direct sur RMC, spécialiste de la grande distribution. Et ça permet de bien poser le problème. On attend aussi vos témoignages ce matin au 32-16 pour être sur le terrain. C'est vous, hein, au final, hein, les consommateurs. C'est vous qui constatez ces hausses de prix. C'est vous qui vous débrouillez débrouiller. On a parlé de système D face à l'inflation. Vous n'hésitez pas à venir témoigner avec Apolline qui arrive dans quelques minutes aux commandes d'Apolline Matin. Elle recevra à 8h30 dans le face-à-face Michel-Édouard Leclerc, je vous le rappelle, à 8h30 sur RMC et BFM TV. Et puis à 6h18, deux hommes viennent de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Emmanuel Lechypre.
Bonjour à tous.
Très attentif à toutes ces questions d'inflation. Et justement, on va surveiller le prix des voitures dans un instant, c'est
ça ? Oui, il n'y a plus une voiture neuve qui se vend à moins de 10 000 euros.
Ah, donc elles valent toutes de plus en plus cher, c'est ouais. ça ? Il n'y a plus de voiture premier prix. En tout cas, le premier prix est remonté.
Ah, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça.
Emmanuel nous explique tout dans un instant. Et puis ensuite, on va se défouler un peu. Ce sera la Story Sport avec Thibaut Texer.
Bonjour, oui.
Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Le PSG tire le Bayern en 8e de finale de Ligue des Champions. On ne va pas se mentir, c'est pas le meilleur des tirages.
Non, mais on va en sourire. Heureusement, on va prendre un peu de distance avec Thibaut dans un instant.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
6h20, place à l'économie sur RMC.
Le chiffre du jour.
Avec Emmanuel Lechypre, le chiffre du jour, il est tout rond, c'est 10 000 euros.
Oui, c'est une barre symbolique, puisque plus aucune voiture neuve ne se vend en France en dessous de cette barre symbolique des 10 000 euros. La dernière, c'était le Dacia Sandero, mais depuis quelques semaines, il se vend 11 490 euros pour la version essence. C'était encore 9 990 euros en fin d'année dernière, 8 690 euros fin 2020. Donc regardez, en deux ans, le prix a augmenté de 2 800 euros, c'est considérable. Et les véhicules d'entrée de gamme des autres constructeurs sont sensiblement plus chers. Il y a un paquet autour de 13 000 euros avec le premier modèle de Fiat qui est la Fiat Panda. Vous avez les Coréens avec le Hyundai i10 et le Kia Picanto. Et puis alors le modèle d'entrée de gamme chez Renault, c'est 15 750 euros. C'est la Twingo, mais après tout, on peut considérer que la Dacia, c'est le modèle d'entrée de gamme de Renault.
Est-ce qu'acheter une voiture demande un plus gros effort financier aujourd'hui que dans le passé ?
Alors, c'est compliqué de mesurer parce que les voitures d'il y a 40 ans, par exemple, technologiquement, c'est pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Si on essaye de faire abstraction de cet effet technologie et en euros constants, on voit que le prix moyen d'une voiture en 1985, c'était 16 000 euros. C'est 28 000 aujourd'hui, donc ça fait 70% de hausse. Oui, mais c'est une effet. Il y a un trompe-l'œil là-dedans. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, en termes d'effort que ça demande d'acheter une voiture neuve, et ben si vous prenez en 1985 le modèle le plus vendu, c'est la Clio, il fallait 6,3 mois de salaire pour se la payer. Aujourd'hui, pour acheter la Clio, il ne faut que 4,5 mois de salaire. Voilà. Donc oui, effectivement, les prix ont quand même considérablement augmenté, mais en termes d'effort personnel, eh bien, ça représente un effort un petit peu moindre qu'il y a 40 ans.
Passionnant, Emmanuel Lechypre, comme tous les matins, pour décrypter l'économie en direct sur RMC. On va tout de suite décrypter le tirage de la Ligue des Champions.
La Story Sport.
Avec Thibaut Texer, le PSG qui a donc hérité d'un gros morceau, ce sera le Bayern, un favori de la compétition.
Une chance au grattage, une chance au tirage. Le PSG en Ligue des Champions, c'est toujours l'assurance de tirer le gros lot. Après Barcelone, Manchester United, City et Chelsea, c'est au tour du Bayern.
Ah non, pas encore.
On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette.
Et oui, c'est le jeu, la dernière fois. C'était en 2021. Bon, ce matin, on va aider les supporters du PSG à relativiser avec 6 victoires, 11 rencontres. La balance penche en faveur du Paris Saint-Germain.
La positive attitude.
Et oui, donc, je vous l'ai dit, la dernière fois, c'était en 2021.
Ça a été Paris est qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Bayern est éliminé. Le tenant du titre sort par le finaliste, le Paris Saint-Germain. 25 ans que la France n'avait pas eu deux années de suite un club français en demi-finale de Ligue des Champions.
Et oui, en quart de finale, les Parisiens s'imposent 3-2 en Bavière. Ils s'inclinent 1-0 au match retour. Ça fait 3 partout. Mais le Paris Saint-Germain se qualifie grâce à la règle du but à l'extérieur qui n'existe plus aujourd'hui. Ah oui. Bon, ça c'est pour les bons souvenirs. La défaite la plus difficile étant la finale de 2020 perdue 1-0. Mais cet échec doit être une force pour le conseiller football du Paris Saint-Germain, Luis Campos.
On est très confident, très positif. C'est une grande opportunité pour... il a beaucoup de joueurs qui ont joué la finale contre Bayern. C'est une grande opportunité. C'est comme ça que je pense, d'une revanche, de faire un grand match et deux grands matchs et de passer à la phase suivante.
La positive attitude qui va même jusqu'à gagner Daniel Riolo.
Au moment où on se parle, le Bayern, dans son expression collective, c'est au-dessus. Normalement, c'est eux les favoris. Mais moi, je mets pas la mallette à Rocco sur le fait que ce soit impossible pour le PSG. Et tout dans le parcours depuis 10 ans montre que essayer d'être rationnel avec Paris, ça sert à rien.
Et le problème, c'est qu'avec le PSG, ça commence souvent comme ça.
Et en face, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain.
Et ça finit comme ça.
Non!
Encore une soirée qui risque de briser les couples. Les supporters du PSG devront choisir entre une Saint-Valentin romantique ou une soirée pizza-bière devant la télé ou les deux. Rendez-vous donc le 14 février pour le match aller.
On s'y prête bien. Voilà, le programme de Massa Valentin, ce sera PSG Bayern, évidemment. Bah, je vois qu'Emmanuel aussi.
Pas du tout.
Non, pas du tout, ok. Bon, on en reparlera d'ici là. Il y a quand même une petite Coupe du Monde entre les deux. Et puis surtout, tout de suite sur RMC, il y a Apolline de Malherbe. Apolline de Matin, ça démarre tout de suite sur RMC. Et RMC Story à la télé.